Éric Zemmour a voulu réagir en exclusivité pour TPMP. Il explique pourquoi cette histoire de parrainage est parfaitement injuste et il fait des propositions. Voilà, ce soir, il a décidé de faire cette vidéo, 2 minutes 27, où il s'adresse aux personnes qui décident. Je la découvre avec vous. Il paraît qu'il y a des révélations dedans. Éric Zemmour en exclut dans TPMP.
Bonsoir Cyril Hanouna et merci de me proposer de réagir dans votre émission TPMP.
Des vidéos d'Éric Zemmour diffusées dans Touche pas à mon poste, sans même que l'animateur producteur de l'émission les ait regardées, en tout cas c'est ce qu'il affirme. Sur Cyril Hanouna, on entend souvent n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, tout simplement parce que la plupart de ceux qui en parlent ne le regardent pas, c'est lapsus révélateur, ou bien ne connaissent qu'une poignée de séquences circulant sur les réseaux. Pour une fois, mon invité a tout visionné pendant des mois, on ne s'attend pas forcément à ce que ce travail soit effectué par le CNRS. Pourtant, il était temps que nos chercheurs se retroussent les manches et livrent une analyse précise, chiffrée, scientifique des talk-shows de la chaîne C8 qui ont complètement muté. Touche pas à mon poste, l'émission causait à l'origine de la télé, elle s'est largement politisée. S'y sont ajoutés l'hebdomadaire Balance ton poste et les émissions électorales Face à Baba, une machine de télé qui brasse toute l'actualité. Alors à qui profite ce virage? À Éric Zemmour, affirme le CNRS, statistique en main.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Claire Sécaille.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes historienne des médias. Le document qui résume votre étude est consultable, hein, alors à la fois sur le blog de votre laboratoire de recherche, mais aussi on l'a mis à disposition de nos auditeurs sur la page de l'Instant M sur le site franceinter.fr. J'aimerais tout de suite que vous nous définissiez votre champ de recherche, puisque ce n'est pas du blabla, c'est un travail extrêmement rigoureux que vous avez mené. Vous avez commencé à regarder les émissions de quand à quand?
Alors, j'ai commencé ce terrain. D'abord, c'est une recherche collective. Donc, on s'est répartis différents corpus. Et moi, j'avais choisi au printemps dernier de travailler sur Cyril Hanouna et ses émissions TPMP, sa quotidienne. Donc, j'ai commencé la recherche concrètement au mois de septembre, à la rentrée. Pour la terminer, donc elle est en cours, elle n'est pas terminée, pour la terminer au 22 avril, juste
c'est
à
ça.
La fin.
Et là, vous avez arrêté les résultats que vous nous livrez à la fin décembre.
Voilà, parce qu'il y a il y avait deux périodes dans ma chronologie. Il y a ce que j'ai appelé la pré-campagne, qui a sa cohérence, son unité, et c'est pour ça que j'ai publié un working paper, donc un papier intermédiaire pour montrer les premiers résultats. Et mes papiers de recherche porteront sur la campagne en tant que telle, en général. Et la deuxième période, elle est en cours. Je n'ai pas encore de
terminé.
Données.
Voilà. Terminé. Donc on se retrouvera à la fin de la saison. Vous avez regardé combien d'heures de Touche pas à mon poste, d'ITP? PMP.
On est autour de 210 heures là pour l'instant avec les Face à Baba et quelques BTP qui étaient diffusés à l'automne.
BTP, c'est Balance ton poste. Vous êtes complètement imbibé par le jargon CBIT. Pour vous, les chiffres sont parlants. L'extrême droite à elle seule, c'est-à-dire l'extrême droite qui réunit, on va dire, les membres et les soutiens des partis d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Florian Philippot, de Dupont-Aignan, représente à eux deux presque 53 du temps d'antenne politique des talk-shows. Alors, il faut que vous expliquiez ce que vous appelez le temps d'antenne politique de ces talk-shows.
Alors, c'est toutes les séquences qui vont être consacrées à ces candidats à travers la parole de leur soutien ou à travers la parole des chroniqueurs qui y consacrent du temps parce que il y a un sujet qui est centré autour de leurs idées ou de leur personne. Et donc, ça constitue ce que j'appelle le temps d'antenne. Je le calcule pas tout à fait de la même façon du CSA parce que je vais... ça, c'est pour la parole quantitative, la partie qualitative, elle va analyser si on en parle en bien, en mal, etc. Là, d'abord, j'essaye de circonscrire l'objet, d'établir des ordres de grandeur pour voir quelle place les sujets politiques occupent dans l'émission. Donc, j'intègre des paroles qui peuvent être très négatives à l'endroit de certains candidats, alors que le CSA, par exemple, le temps d'antenne selon le CSA, c'est du temps qui est favorablement accordé à un candidat.
Donc 53% du temps d'antenne politique du talk show consacré aux différentes sphères de l'extrême droite, avec un grand gagnant là-dedans, Éric Zemmour.
Oui, alors c'est le premier renseignement et je dois dire que ça m'a quand même assez surpris quand j'ai commencé à sortir mes premiers résultats au fil des semaines. Cette place majoritaire qu'a l'extrême droite dans cette émission-là. Je travaille sur C8 parce que j'avais écarté CNews. Mmh. La réponse me semblait dans la question.
C8 et CNews appartiennent au même
voilà.
groupe.
Et Canal+. Je me disais qu'il n'y avait pas forcément une porosité de la stratégie Bolloré, qu'on la retrouverait pas forcément dans une émission de divertissement de Cyril Hanouna, dont l'origine, le nom même, hein, Touche pas à mon poste, est un hommage à SOS Racisme, à Touche pas à mon pote,
ouais.
le slogan des années 80. Donc ça me paraissait, moi qui n'avais pas beaucoup regardé cette émission, je dois avouer, avant de me lancer dans ce terrain, ça me paraissait peut-être pas si évident que ça d'y répondre aussi affirmativement. Et les ordres de grandeur m'ont surpris, et encore plus, je dois dire, l'approche plus qualitative encore.
C'est ça. Alors vous dites qu'il occupe à lui seul 44,7% du temps d'antenne politique. Au sein du temps d'antenne politique consacré à l'extrême droite. Vous dites que Marine Le Pen recueille 6 fois moins de temps d'antenne que son concurrent direct. Du coup, Marine Le Pen envoie un maximum de ses soutiens sur le plateau « Touche pas à mon poste » pour essayer de remonter le retard.
Pourquoi Marine Le Pen, ça marche plus ?
Ben ça, c'est votre analyse.
Non, c'est les chiffres.
Il y a un sondage qui vient de sortir ce soir qui place Marine Le Pen à plus de 20%, un sondage OpinionWay qui est sorti à l'instant.
Non, moi alors vous l'avez, moi je l'ai
et,
pas.
Ben il est sorti il y a une heure. Marine Le Pen a...
J'ai le sondage où elle passe de 26 à 16%.
Oui, parce que vous avez pris le sondage qui vous arrange pour faire l'entrée en matière.
J'ai pris le dernier,
mais
c'est celui-là.
En vérité, il n'y a pas un seul sondage.
Ça, c'est Jordan Bardella qui vient représenter le parti de Marine Le Pen sur le plateau de Cyril Hanouna. Vous vous dites, il y a eu aussi Julien Odoul, il y a eu aussi Romain Lopez. C'est-à-dire, il faut contrer l'appui à la présence, en fait, d'Éric Zemmour.
Ben, ça s'est passé avec le bras de fer que Zemmour a eu avec le CSA au moment où le CSA a demandé son comptage de temps de parole politique. Et donc là, en effet, il s'est déployé sur les différentes arènes du groupe Bolloré, en dehors de sa zone de confort de son émission de CNews. Et là, du coup, le RN a vu le risque, a vu le risque aussi par rapport au public type de Cyril Hanouna, un public populaire composé de jeunes, des gens peu politisés, souvent anti-système. Donc ils ont vu le risque de perdre une partie de cet électorat. Donc ils ont en effet développé une stratégie plus offensive et multiplié les plateaux, accepté. Hein. Cyril Hanouna le disait encore hier chez Marine Le Pen. On nous dit oui tout le temps quand on invite quelqu'un.
Alors Cyril Hanouna a vu vos chiffres, il les a contestés à l'antenne hier.
Regardez, Karim en tête, le candidat est... le parti auquel on a réservé une plus grosse part, d'ailleurs on doit arrêter parce qu'on a notre trophée, c'est Jean-Luc Mélenchon, 31%. Alors, en numéro 2, en deuxième position, s'il vous plaît, calmez-vous, en deuxième position, on a en jaune Emmanuel Macron, donc notre président. En troisième position, on a donc 15%, Éric Zemmour, voilà. En troisième position, Éric Zemmour, à qui on a...
À ceci près que ce que donne Cyril Hanouna, ce ne sont pas des statistiques propres à Touche pas à mon poste.
Alors, les données du temps d'antenne en période électorale, c'est par chaîne. Mm-hmm. Donc, effectivement, il y a forcément un décalage. Moi qui travaille sur TPMP pour le volet quantitatif, je n'ai pas les mêmes chiffres. Par contre, j'ai des ordres de grandeur qui peuvent entrer en résonance avec ce que dit Cyril Hanouna. Et effectivement, il y a un petit rattrapage. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne le dit pas. Les relevés, c'est tous les 15 jours et pas tous les mois. Là, il a donné les données pour le mois de janvier. Mmh. Alors que la première quinzaine, celle qui est en ligne sur le site de l'ARCOM maintenant, et il n'y a que la première quinzaine qui est disponible, il n'avait pas du tout respecté les temps d'antenne. Valérie Pécresse était à 3%. C'est pour ça que la troisième semaine, donc pour la deuxième quinzaine, il a essayé de rattraper les choses en invitant un porte-parole de Valérie Pécresse. Ça tombait bien parce que c'était juste après.
Donc ce qu'on comprenne bien, vous, c'est un comptage strictement pour l'émission et les chiffres qu'il a donnés hier soir, c'est des chiffres de la chaîne. Donc
voilà.
Évidemment, forcément, la chaîne cherche à compenser à d'autres horaires et dans d'autres
formats. Et deuxième élément de précision, c'est que moi, mes données portent sur la pré-campagne. Là, il a donné pour les mois de janvier, donc on n'est n'est pas sur la même donnée d'observation. Et voilà, donc ça change un petit peu les choses.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une surexposition de l'extrême droite. À l'intérieur de la surexposition de l'extrême droite, il y a la surexposition d'Éric Zemmour. On reviendra au traitement qui est réservé à Éric Zemmour. Et vous, vous dites, il y a aussi, de manière très manifeste, un clientélisme du gouvernement, un clientélisme de la Macronie. On écoute comment Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est reçu après des mois de tergiversation sur le plateau « Touche pas à mon poste ».
Jean-Michel Blanquer, j'ai eu la chance en tout cas de le côtoyer un petit peu, c'est un bosseur. Voilà, il bosse, il essaie de faire du mieux qu'il peut. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, on peut dire ça.
Ah ben oui.
Et j'ai vu qu'en plus vous vouliez maintenant faire une barbe comme moi, donc ça m'a fait extrêmement plaisir.
Voilà, donc il est reçu avec beaucoup de déférence. Il n'est pas le seul.
Non, alors sur l'automne, voilà, il y a une sorte de lien direct. Par exemple, Marlène Schiappa peut appeler à n'importe quel moment de l'émission, elle sera retransmise. Il y a eu des moments, notamment avec la Férulo et le reportage envoyé spécial. Marlène Schiappa a pu, quelques heures avant le reportage envoyé spécial, donner sa version, essayer de
Elle s'est retrouvée en grande difficulté.
Voilà. Ouais. Donc elle a pu compter sur Cyril Hanouna pour relayer sa parole sur un plateau qui était composé avec des féministes où elle pouvait être mise en difficulté, en effet. Cyril Hanouna se fait le relais direct et il le met en scène, en plus. C'est ça qui est désarmant, c'est qu'il souligne à quel point il a des conversations privées pour expliquer et il vient avec les arguments, les éléments de langage des membres du gouvernement.
Alors, il y a eu les émissions co-construites avec Elisabeth Borne, ministre du Travail. Il y a eu le programme du gouvernement transformé en émission Un jeune, une solution sur les antennes de C8,
avec Agathe Oprou, ouais.
Voilà, produite par Cyril Hanouna. Mais vous vous dites qu'il y a quand même une différence de traitement entre des ministres à qui on accorde beaucoup de déférence et puis des porte-paroles avec qui on vient boxer.
C'est-à-dire que les ministres, ils peuvent mettre des conditions, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer en venant sur TPMP cet automne. Il y a mis des conditions pour qu'il n'y ait pas de registre grossier ou qu'il n'y ait pas trop de questions dérangeantes, une adversité. Alors que c'est vrai, des députés En Marche ou des porte-paroles du parti peuvent venir et sont là, jouent un rôle véritablement de contradicteur face à un adversaire politique, si possible, le plus antagoniste possible, comme c'est le principe de l'émission.
C'est ça, et donc en fait vous vous dites, cette émission, elle a anticiper une forme de bipolarisation de la campagne, hein, là de l'extrême droite face à la Macronie ou la Macronie face à l'extrême droite.
C'est l'effet de bipolarisation qui intervient très tôt. Donc au moment où Cyril Hanouna se donne le rôle de médiateur de la vie du débat électoral, en fait, il va déjà réduire complètement. Il y a un effet réductionnisme à outrance cette offre électorale puisque n'émerge que les deux principaux forces antagonistes, donc majorité extrême droite et plus particulièrement sur le plan personnel, Éric Zemmour et Emmanuel Macron.
Quid de la gauche dans Touche pas à mon poste, on commence par Anne Hidalgo.
Non mais c'est dingue parce qu'à Paris, je ne sais pas si vous avez vu, grâce à Anne Hidalgo, c'est la seule ville où il y a des voitures qui roulent et vous êtes à pied, vous faites comme ça. Et tu kennes les voitures. Non mais c'est un truc de fou. Bon, Anne Hidalgo, on va pas l'enfoncer.
L'invitation tient toujours pour qu'elle vienne.
Bien sûr.
Oh là là.
Bon, à 3%, elle peut venir. Voilà.
Anne Hidalgo bashing, c'est le sport préféré de Cyril Hanouna.
Alors, les différents candidats s'inscrivent dans des registres narratifs, qui vont leur être accolés et dans lesquels c'est difficile de sortir. Pour le cas d'Anne Hidalgo, c'est très spécifique. Elle est vraiment installée dans un registre où elle n'est que raillée, moquée, parfois sur des éléments personnels, que Cyril Hanouna compense parfois avec des qualités relationnelles en ramenant toujours la chose comme un phénomène compensatoire qu'en fait elle est très sympa et
chose qu'il fait beaucoup avec l'extrême droite. D'ailleurs, vous dites souvent il n'utilise jamais les mots extrême droite, jamais. Il utilise toujours d'autres qualificatifs alors qu'il parle volontiers de l'extrême gauche. Il ne prononce jamais le terme d'extrême droite et il compense toujours aussi les propos outrageux, outranciers ou extrémistes de ses ses interlocuteurs en disant il est génial, on l'adore, on l'aime bien comme ça, c'est pour ça qu'il nous fait marrer.
C'est une émission conversationnelle, relationnelle, donc elle va pas mettre en avant des idées, elle va plutôt renforcer des capitales sympathie ou défaire des réputations, et c'est ce qui se passe avec les différents candidats, c'est ce qui se passe avec tous les soutiens d'Éric Zemmour qui sont drôles, qui sont sympas, et on évacue complètement le fond des idées, et tandis qu'Anne Hidalgo, elle est ramenée en permanence, disqualifiée par son bilan à la mairie de Paris notamment, qui quelquefois vient s'adosser à un dossier parfois un petit peu compliqué pour elle, comme l'explosion au gaz de la rue de Trévise, avec la question de l'indemnisation des victimes. Et donc, d'un seul coup, tout le bashing devient légitime parce que on a, sur une séquence et un fait divers en particulier, une image désastreuse de la candidate, et ça vient quelque part légitimer tout le récit qui préexistait depuis des semaines à son endroit.
Alors, les écologistes sont complètement invisibilisés dans l'émission, ou alors sans cesse ramenés au scandale sexuel autour de Nicolas Hulot. Jean-Luc Mélenchon, cas à part.
Mais tu vois, Cyril, je voulais vous dire une chose. Pour qu'on comprenne bien, parce que bon, nous, on est des militants politiques, on a des fois tendance à parler dans notre jargon. Oui, non, mais des fois, là, c'est clair, comme elle vient de le dire. Je trouve ça très clair, et c'est pour ça que c'est magique que sa manière, ça fait un moment qu'elle explique les choses.
Ce qu'elle vient de dire, c'est Raquel Garrido, qui est l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et qui a été un des piliers de l'émission ces dernières années. Il l'appelle Cyril.
Alors, Jean-Luc Mélenchon et ses proches en particulier se sont installés véritablement dans l'économie relationnelle de Cyril Hanouna. Jean-Luc Mélenchon, de manière historique, en étant le premier invité politique dans son émission, c'était en 2013. Ouais. Et là, depuis 2019, c'est Raquel Garrido qui est devenue chroniqueuse dans Balance ton poste et qui, elle aussi, a cru ou pensé, vous l'avez reçu il y a quelques jours ici, qu'elle pouvait faire avancer les idées. Alors, Balance ton poste fonctionne vraiment différemment parce que c'est plus classique, on va dire. Les chroniqueurs sont plus rodés au sujet politique. Mais dans TPMP, on n'a pas forcément la possibilité. Moi, je m'intéresse à ce que produit le dispositif en termes de sens, en termes d'éclaircissement sur la campagne électorale, et on n'a pas forcément la possibilité d'entrer dans les sujets. Et quand on observe le rôle des représentants France Insoumise dans cette émission TPMP, ils ont le rôle de contradicteurs de prédilection, d'abord et avant tout à Éric Zemmour, parce qu'il y a un effet de cadrage massue, c'est ça qui compte en fait dans cette émission, c'est comment est formulée la question et avec qui on en discute. Et le problème, c'est qu'ils ont un rôle vraiment fonctionnel dans cette économie.
Et comment est formulée la question? Vous voulez répertorier toutes les questions, la façon dont on titre les émissions, dont on fait des sondages, des faux sondages, qui sont des libres consultations sur Twitter. Vous avez recensé toutes les questions, et en fait la question, c'est toujours une forme de, autour d'Éric Zemmour, c'est extrêmement intéressant parce que il y a toujours une forme de dramatisation d'un mouvement en cours, d'une actualité en cours.
Voilà, il l'expliquait hier, Éric Zemmour c'est le seul à faire des polémiques, mais ça veut dire qu'il réduit, contrairement à ce qu'il a dit au début de l'année, en disant je vais donner le casting de toute l'élection, donner à comprendre les enjeux de l'élection à mon public, et là finalement hier il vient de dire qu'il le réduisait au candidat qui était en capacité de produire de la polémique.
C'est ça.
Ce qui est pas, qui est quand même assez révélateur sur le contenu qu'il offre à son public et la vision qu'il a de lui-même. Sous-entendu, on ne peut pas offrir un vrai débat à un public populaire d'une émission qui touche des jeunes, qui touche des catégories populaires. Donc il y a, je trouve un grand décalage entre le discours, le récit de soi et les contenus de son émission.
Merci beaucoup Claire Seca. Je rappelle que vous êtes donc chercheuse au CNRS et que tous vos chiffres, toutes vos statistiques, toute cette recherche est disponible sur la page de l'émission. Qu'évidemment, c'est qu'un regard, très circonscrit et très limité sur cette émission qui brasse aussi énormément de débats de société, de débats d'actualité. Ce serait absolument passionnant de détricoter ce qu'il s'y passe et ce qui s'y joue en dehors proprement de la parole politique. Mais c'est déjà un début d'éclairage. Merci Claire Secaille.